nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Villard de Lans, petit village touristique et de maison de repos spécialisée surtout pour les enfants, le village se trouve en Haute-Grenoble. Comme beaucoup de villages dauphinois, il veut jouer au village alpin avec son architecture, ses souvenirs, ses costumes, ses coutumes. Il veut faire croire qu'il est un village de haute montagne. Et en réalité, ce n'est qu'un village de basse altitude, ce qui le rend un peu ridicule. Une voiture noire s'est arrêtée devant une petite rue de Villard de Lans, à côté d'un immeuble de 3 étages, 9 façades belges. En descendant des voitures, une femme, grande, mince, blonde, elle porte un tailleur marron. Sonne à l'interphone de l'immeuble. Oui, je suis mademoiselle Edith. Santé. Bien, vous pouvez entrer. Elle entend des cliques de la porte. Elle entre. Elle est entrée. Grande allée, moderne, avec des glaces sur les murs, murs gris. Elle va à l'ascenseur. Entre dans l'ascenseur et monte jusqu'au troisième. Arrivée au troisième, elle est sortie. Puis, elle va vers la porte de droite. Est-ce que... La porte est ouverte. Un homme grand, mince, cheveux gris et barbe abondante, yeux bleus fixes. La femme lui dit, « Bonjour, monsieur, je suis mademoiselle Edith Santré. » « Entrez, mademoiselle. » Elle entre. Ferme la porte. Petit couloir étroit, c'est un F2. Il est décoré comme un chalet et meublé campagnard. Allons à mon séjour. Elle le suit. Ouvre une porte, entrez. Elle entre. Grande pièce avec des portes-fenêtres qui donnent sur une loggia. Fauteuil, canapé de cuir marron, table basse, buffet. Asseyez-vous. Elle va s'asseoir dans un fauteuil. Vous désirez boire quelque chose? Elle lui dit, vous merci. Un jus de fruits, orange, fraise, cassis, tomate, citron. Un citron. Il va lui chercher la boisson dans un coin du salon qui fait bar. Et va le lui porter. Pose sur la table basse qui est à côté d'elle. Et la serre. Tenez, vous voulez un glaçon? Non, merci. Voilà. Vous aussi en prend un. Puis, il s'assoit en face d'elle. En silence. Puis, il lui dit, je vous écoute. Elle lui dit, vous savez, c'est que je prépare un livre que j'aimerais faire sur la vie de votre frère. Et j'aimerais quelques renseignements sur lui. Il lui dit, mon frère, nous ne sommes pas beaucoup fréquentés. Moi, je vivais avec mon père et lui était à Lyon. Nous voyons très peu. En enfance, l'homme fait sans l'enfance, je ne vois pas. Elle lui dit, ça vous paraît bizarre que l'on pense à son enfance, c'est-à-dire lui, un enfant, je ne vois pas. Il était très taciturne, bougeait très peu. Elle lui demande, ne s'ennuyez pas? Non. En tout cas, pas avec ses jouets. Et que faisait-il? Rien. Il lisait, regardait la télé, jouait, aidait notre mère à faire les courses. Elle fait, je vois. Et son adolescence? Il lui dit, il était très maigre. Parlait plus et ne nous aimait pas. Il avait plusieurs fugues. Elle n'a jamais voulu nous dire pourquoi il était parti. Elle lui demande. À Paris. Pourquoi faire? Là, je ne sais pas. Il n'a jamais voulu nous le dire. Mes parents disaient qu'il était une tête de cochon. Puis il nous a quittés. Moi, je suis resté avec mes parents. Puis mon père. Et j'ai eu une grave maladie. Et le temps passait. Il n'est jamais venu nous voir, ni nous a écrit. même lorsque j'étais malade. Il n'a jamais voulu venir me voir. Elle lui dit, c'est bizarre, elle peut-être ses raisons. Lesquelles, à part ne pas nous aimer. Et de sa vie sentimentale, vous saviez des choses? Il nous cachait tout, mais l'on a su ce qu'il aimait. J'ai trouvé ça dégueulasse. Et dire qu'il nous regardait de haut, je lui ai dit un jour qu'il n'avait pas à nous regarder comme ça, parce que je savais tout. Il a un peu paniqué, je crois, et a compris que nous savions. Vous, lui répond, il avait des mauvaises mœurs bizarres. Et il avait eu une aventure intime avec un de nos voisins. À cette époque-là, c'était très grave. Il ne savait pas que vous le saviez? Oui, il en avait honte. Bien, il devient journaliste? Et est-ce qu'il vous dit que vous avez de bons rapports avec lui? Toujours distant. Vous voyez très peu, et la plupart du temps, vous venez vous voir juste une heure ou deux. Et puis nous étions obligés, c'est d'aller chercher pour qu'il vienne. Vous saviez que ce qu'il faisait comme travail? Non, pas vraiment. Il ne parlait que très peu de son travail. Vous écoutiez ses émissions? Non, regardez la télé, nous. C'est mieux que la radio. Est-ce qu'il a décédé? Ses papiers, documents, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y avait un tas de papiers, de dossiers, comme vous dites. On ne savait pas où y mettre. La radio en a pris un peu et le reste a été brûlé. Vous en êtes sûr? C'est une catastrophe de brûler de tels papiers. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Les garder, les aurait achetés un très bon prix. Mais personne n'a demandé à vous les acheter? Il réfléchit et lui dit, il me semble que oui. Une personne est venue nous voir et a demandé à acheter des écrits de Pierre de Saint-Auban. Mon père lui en a donné. Et quelle est cette personne? Je ne sais pas. Comment était-elle? Je m'en souviens plus, c'était un homme, mais le reste. Et les papiers que vous lui avez donnés, c'était lesquels? Il y en avait tellement que c'est impossible de savoir lesquels. Le soupir. Elle lui dit, est-ce que vous avez quelque chose de cette époque que j'aimerais, qui pourrait vous rappeler, Pierre, des carnets, un livre, un vêtement? Rien, rien du tout, tout a disparu. Vous n'avez rien de votre frère? Non, rien du tout. La femme soupire, se lève et lui dit, merci, je vais vous laisser, un véritable gâchis. Voilà, on se lève et raccompagne la femme jusqu'à la sortie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Une fois qu'elle est partie, pour enfermer la porte de l'appartement, longe au couloir, et ouvre une porte. C'est une chambre avec un grand lit à deux places, une grande armoire, trois portes, une table de nuit et une chaise. Les meubles sont style campagnard. Est allongé sur lui, un homme vieux en pyjama bleu, cheveux blancs, et semble gros et fort. Il demanda à Roland.
Elle est partie.
Oui, papa.
C'est pour... Qu'est-ce qu'elle voulait?
Du papier de pierre. Le père lui dit.
Ne les aura pas. Ils sont à nous, ces papiers. Ils sont en lieu sûr. Qu'est-ce qu'ils ont tous à les vouloir?
Les jours passent. Les chômeurs, les SDF, tous les gens qui ne peuvent s'adapter aux nouvelles vies. On va les laisser mourir à petit feu en s'occupant d'eux le moins possible. Ou s'occuper d'eux, cela veut dire les aider à mourir. Pour les gens au pouvoir, ce sont devenus des sous-hommes, des hommes dépassés, inadaptés, ou inadaptables à la nouvelle vie. Donc, ils ne doivent plus vivre. Et comme ils ont dans leur gène, leur ADN, ce qui fait qu'ils sont des sous-hommes, on doit les empêcher de procréer pour qu'ils ne produisent pas encore une race de sous-hommes. Donc on les stérilise. On le fait par des piqûres de produits qui entrent dans le sang. Ceci peut se faire aussi par des produits dans l'eau ou dans les aliments. C'est indolore, ça ne risque rien, juste de ne pas avoir d'enfant. Il y a un produit pour la femme et un pour l'homme. Pour l'homme, c'est le produit Pontoise parce que c'est le plus efficace. Dans chaque quartier, l'on rassemble les ratés, c'est-à-dire les SDF, les chômeurs. On va les chercher jusqu'à chez eux. Vous avez toujours voulu. On va les chercher jusqu'à chez eux. On leur dit, il y en a pour 5 minutes. n'y a rien. Et il les emmène. Là, sous une tente, dans un coin de la rue, un médecin et une infirmière piquent les gens Les SDF sont pourchassés dans les rues, les câbles, les égouts, etc. Ceux qui ne veulent pas se faire prendre, on les pique à coups de carabine à piqûre.
Nous obtiendrons l'expulsion. Oui.
Parmi les inadaptés, les gens qui ne peuvent vivre dans un monde moderne, il y a les révoltés, les anciens anards, ex-68ards, qui refusent de se faire expulser, de se faire stériliser, d'aller dans une zone pour eux. Ils veulent vivre comme ils l'entendent, ont des idées nihilistes contre tout. Et en plus, ils le veulent l'honneur. S'imaginent qu'ils ont une mission à accomplir, que leur but dans leur vie, c'est d'aider les autres à se révolter. Que dans la vie, on doit toujours être révolté. Ces gens-là sont considérés comme des gens dangereux, qui ont des idées dangereuses. Ils doivent être éliminés le plus vite possible avant qu'ils ne créent des révoltes. Ce sont des militants têtus. Distribue des tracts faits comme en 68, c'est-à-dire dans un vieux papier, et c'est illisible. Fait des réunions dans des cafés pour discuter de la révolte. Heureusement qu'ils ne se servent pas d'ordinateur ni d'un média quelconque. D'ailleurs, ils disent qu'ils sont contre les médias. Ils disent que ça empêche ces gens de parler, d'avoir des relations humaines. Et que s'ils étaient au pouvoir, ils arrêteraient tout ça. Pour ces hommes-là, la police, les hommes en noir, ont reçu l'ordre, c'est d'éliminer sur place ce genre d'individus. Les hommes en noir, la nuit, sillonnent toujours la ville. Ils entrent dans les allées. Défoncent les portes des appartements et tirent au lance-flamme les habitants. Dans les quartiers populaires des villes, dans les zones, les huppes, les gens ont peur. Se barricadent, se verrouillent, mais on sait que tout ça ne servira à rien. Surtout qui défonce les portes. Certains paniquent tellement qu'ils se jettent par la fenêtre. Ces hommes noirs qui défoncent les portes d'un immeuble, toutes les portes en même temps, pour éviter que certains essayent de s'enfuir, lancent flammes et au laser. Et ne brûle que petite surface. Lorsqu'on tue une personne, ça ne brûle que la personne. Mais pas le décor de celle-ci. Et une personne. Personne démunie, sans absolument rien, et niée, comme les rois niés, rois feignants. Certains, de désespoir, se tuent, en se pendant, se jetant à l'eau. D'autres, te donne des coups, un coup de revolver. Lorsqu'on vient les chercher, pour les mettre dans des zones, s'ils sont encore vivants, ils refusent. Ils arrangent les autres et créent des petites émeutes. Ça crée des petites émeutes dans les rues. Mais très vite, le service d'ordre vient et verrouille tout ça. Et ça se termine à coup de bazooka. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morvetti.